Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Si vous n'êtes pas un lecteur assidu des pages marché des Échos, il se peut que jusqu'il y a quelques semaines, vous n'ayez jamais entendu parler de BlackRock. Il se peut même que vous l'ayez confondu avec le célèbre Black Pearl. BlackRock, ce n'est pas un bateau pirate, et pourtant, certains soupçonnent ce groupe américain de vouloir pirater le système de retraite français. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de partir à la découverte de ce géant américain devenu un épouvantail pour les opposants à la réforme de la retraite. Ce que l'on entend dans cette vidéo diffusée sur le site d'Europe 1, ce n'est pas la sortie du vélodrome à l'issue d'une victoire des hommes de Villas-Boas, mais un petit groupe de cheminots cégétistes qui ont investi le hall du Centorial à Paris. Ce bâtiment, ancien siège du Crédit Lyonnais, accueille notamment les bureaux du groupe BlackRock en France, un géant de la gestion d'actifs américains, des manifestants contre la réforme des retraites. Vous cherchez le lien ? Je vous explique. En résumé, BlackRock, dirigé en France par l'ancien patron d'Engie, Jean-François Cirelli, est accusé d'avoir publié un document qui aurait inspiré la réforme voulue par le président Macron. Il est aussi suspecté d'agir dans l'ombre du pouvoir pour mettre fin au système de la retraite par répartition, pour favoriser une retraite par capitalisation qui lui serait favorable. Le fait que Jean-François Cirelli, ancien haut fonctionnaire, ait fait partie de la promotion du début d'année à la Légion d'honneur serait une preuve de plus du complot. Mais qui est donc réellement BlackRock ? Bastien Bouchaud est journaliste au service marché des Échos. Il suit chaque semaine dans le journal de mardi l'actualité de la gestion d'actifs. Je me suis dit que s'il y avait bien quelqu'un aux Échos qui pouvait me renseigner sur BlackRock, c'était lui.
BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs américain qui a été créé en 1988, qui est aujourd'hui le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 7 000 milliards de dollars d'encours.
C'est-à-dire que quand on dit un groupe de gestion d'actifs, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? C'est différent d'un fonds de pension ?
Alors, c'est différent. Un gestionnaire d'actifs, c'est quelqu'un qui va sur les marchés pour investir l'épargne de ses clients, alors qu'un fonds de pension, il collecte des cotisations auprès d'épargnants pour ensuite leur distribuer des retraites, des rentes, une fois leur retraite entamée.
D'accord, oui. Donc le gestionnaire d'actifs, finalement, c'est quelqu'un à qui vous avez mis 1 000 dollars de côté, vous lui donnez et il va faire fructifier cet argent.
Exactement. Et il travaille également pour les fonds de pension, pour les caisses de retraite. C'est-à-dire que les caisses de retraite vont lui confier une partie de leur magot pour le faire fructifier en bourse pour le compte des épargnants.
Donc, ils vont être amenés à travailler effectivement pour beaucoup de monde, beaucoup de clients, quand on gère 7 000 milliards, forcément. Ce qui est une somme très importante. J'ai regardé, c'est l'équivalent, alors ça, même si, bon, faut toujours se méfier de ces comparaisons, mais pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du PIB de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne réunies. Donc, on parle de sommes très importantes. Quand la bourse se porte bien, forcément, ça rejaillit hein, sur l'argent qui est géré par cette société. Mais alors, pour qu'on comprenne bien, cet argent n'appartient pas à BlackRock.
Non, c'est 7 000 milliards d'encours, c'est des encours qui appartiennent aux épargnants. Ils n'appartiennent pas à BlackRock. BlackRock ne peut pas faire ce qu'il veut avec cet argent. Souvent, ils sont confiés à BlackRock avec une volonté d'être investi sur un marché ou un autre, sur une classe d'actifs ou une autre. BlackRock ne fait que gérer cet argent pour le compte des épargnants.
Comment est-ce que BlackRock gagne de l'argent alors ?
Bah, il facture le service d'investir pour le compte de ses clients sur les marchés financiers.
J'ai regardé effectivement, en 2018, plus de 4 milliards de dollars de bénéfices, c'est presque autant que le Crédit Agricole et presque deux fois moins que BNP Paribas. Donc on parle quand même d'un groupe important, mais finalement, en termes de poids, c'est pas plus que certaines grandes banques françaises. Hein.
Non, parce que l'une des raisons du succès de BlackRock depuis sa création, c'est qu'ils ont un peu cassé les prix de la gestion d'actifs, grâce notamment à la gestion passive. Donc sur 7 000 milliards de dollars d'encours, ils ne réalisent que 4 milliards de profits par an, ce qui est déjà énorme, mais qui n'est pas si énorme que ça compte tenu de ses encours.
Alors, on en reparlera tout à l'heure de la gestion passive. C'est un groupe américain, donc on dit, un des plus gros d'ailleurs du secteur, un des plus gros gérants d'actifs
au monde. C'est le plus gros.
C'est le plus gros aujourd'hui. Mmh. Hein. Il est présent en France ?
Oui, oui, ils sont présents en France depuis un peu plus de 10 ans. Ils ont une implantation modeste d'une soixantaine de personnes, mais qui a plus que doublé de taille ces derniers temps, puisqu'ils ont racheté iFront, une société française spécialisée dans les données financières, et qui a plus de 100 employés en France. Ils gèrent un peu plus de 27 milliards d'euros, donc c'est conséquent, mais c'est assez peu comparé à d'autres acteurs du secteur, notamment des acteurs français qui sont bien plus établis.
BlackRock fait du lobbying pour les plans d'épargne retraite, hein, Agnès.
Non, ils ne font pas du lobbying, en l'occurrence. C'est raté parce qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner. C'est une boîte de Smarties, le marché français. Arrêtons de raconter.
Smarties, c'est-à-dire, expliquez-nous, parce que là,
ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs.
On va passer au-delà de la polémique autour des Smarties et de la réponse d'Agnès Pannier-Runacher aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Cela a donné à Jules Grandin et à son équipe d'infographistes l'occasion de s'amuser avec des boîtes de Smarties, de quoi nourrir aussi la rédaction durant quelques jours. Une infographie que vous pouvez retrouver sur le site internet des Échos. Alors Bastien, on voit bien que la France reste un petit pays pour le numéro un mondial de la gestion d'actifs. C'est un marché où les groupes français sont aussi bien présents.
Oui, la France est l'un des plus grands marchés de la gestion d'actifs en Europe. On a des entreprises qui sont très connues. Amundi est le leader européen, le champion de la gestion d'actifs avec 1500 milliards d'euros d'encours. Et on peut aussi citer les filiales de groupes bancaires et assureurs, BNP Paribas AM, Natixis, Natixis IM, qui est la filiale du groupe BPCE, ou encore AXA IM, par exemple.
C'est intéressant, effectivement, parce que la France, c'est même si on a un système de retraite qui repose sur la répartition et non pas sur la capitalisation, la France, aujourd'hui, est un champion avec des grands noms de la gestion d'actifs en Europe.
Oui, notamment grâce à notre secteur assurantiel, qui est l'un des plus gros en Europe et qui a besoin de faire fructifier ses réserves très importantes sur les marchés financiers.
Enfin, il y a les géants de la gestion américaine ou britannique, des groupes comme BlackRock, Vanguard ou State Street qui ont également des positions très importantes dans le capital des entreprises du CAC 40, notamment au travers des fonds qu'ils gèrent pour leurs clients dans tous les pays du monde.
Alors Bastien, on l'a entendu dans cette vidéo des Échos, BlackRock est aussi connu comme étant l'un des principaux actionnaires de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris. Selon une étude d'Euronext fin 2017, il était même le cinquième plus gros actionnaire de l'indice, avec près de 2% de la capitalisation. Comment expliquer ce poids ?
L'un des facteurs déterminants de son succès, c'est la gestion passive. Au lieu de choisir, de faire une réflexion sur le choix de titres en bourse sur lesquels investir, donc par exemple investir sur L'Oréal plutôt que sur Total parce qu'on a des perspectives de croissance plus importantes sur ce titre plutôt que tel autre, ils vont investir sur tous les titres du CAC 40. Ils vont reproduire l'indice boursier dans un portefeuille et simplement le laisser croître ou décroître selon les dynamiques de la bourse.
Ça veut dire qu'ils vont copier finalement la composition d'un indice ?
Exactement. Ils ne prennent pas de décision entre telle valeur ou telle autre valeur. Ils se contentent simplement de suivre un indice, ce qui leur permet d'afficher des prix bien moins élevés que leurs concurrents actifs, puisqu'il n'y a pas de besoin derrière de quelqu'un qui regarde chaque jour les nouvelles sur tel ou tel autre titre, sur l'économie française ou quoi que ce soit. Ils peuvent simplement écrire un code informatique qui va suivre l'évolution de l'indice.
Alors, est-ce que ce poids de BlackRock sur les marchés financiers peut participer à l'image négative du groupe en France ?
Oui, certainement. BlackRock, c'est un actionnaire important de toutes les entreprises du monde, quasiment. Et il lui est souvent reproché, et potentiellement avec raison, de ne pas en faire assez pour pousser les entreprises à s'emparer des sujets climatiques, par exemple. Elle se défend en mettant en avant le fait que c'est un investisseur passif, qui ne fait pas de choix parmi les sociétés dans lesquelles elle investit, et qui lui laisse un peu une marge de manœuvre pour dire que ce n'est pas son rôle.
La France, des Smarties pour BlackRock, peanuts, dirait-on en anglais. Est-ce que cela veut dire pour autant que BlackRock se désintéresse du marché français ? C'est la question que j'ai posée à Elsa Conessa. Elle est rédactrice en chef des pages Marché Finance aux Échos.
Alors pas du tout, ils ne se désintéressent pas de la France et ils ne se désintéressent pas du tout du marché de l'épargne retraite en fait. Depuis que BlackRock est en France, ses dirigeants, y compris avant M. Cirelli, n'ont pas caché leurs ambitions sur le marché de l'épargne retraite en France. C'est un intérêt qui apparaît dans toutes les notes et tous les propos, toutes les interviews qui ont été données par les dirigeants de BlackRock en France depuis des années. Pour l'instant, effectivement, les encours sont faibles, mais il y a clairement cette idée que c'est un marché en croissance, un marché qui a du potentiel, avec bah, alors, plus récemment la loi Pacte, qui a été votée l'an dernier, qui vise à faire passer les encours d'épargne retraite en France de 230 à plus de 300 milliards d'euros, donc avec différents produits, le PER, etc., qui vise à récupérer une partie des fonds de l'assurance-vie, en fait, à inciter les gens à déplacer leur argent de l'assurance-vie vers des produits d'épargne retraite. Et puis, avec la réforme des retraites qui est discutée en ce moment, qui prévoit que les plus hauts revenus, en fait, n'auraient plus besoin de cotiser au-delà de 10 000 euros par mois. Et donc, bah, s'ils ne cotisent plus, il y a cette idée quand même que l'argent serait placé dans des produits d'épargne et potentiellement des produits d'épargne retraite. Donc, c'est clairement ce que BlackRock et d'autres acteurs de la gestion d'actifs regardent depuis plusieurs années et regardent en ce moment. Voilà.
Oui, parce que BlackRock n'est pas le seul à s'y intéresser. J'imagine que beaucoup de sociétés de gestion d'actifs pratiquent aussi le lobbying intensif auprès du gouvernement.
Alors oui, le lobbying, c'est quelque chose que les entreprises font toujours, que ce soit des acteurs français ou étrangers, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est pas quelque chose qu'il faut ignorer non plus. Tous les acteurs de la gestion d'actifs ont intérêt à ce que le marché de l'épargne retraite et de l'épargne par capitalisation finalement se développe, c'est évident, les Français comme les étrangers. Et en France, on a la chance d'avoir un très grand acteur de l'épargne, un gros asset manager, donc un gestionnaire d'actifs qui s'appelle Amundi, qui est une société du Crédit Agricole en fait. Amundi, c'est 1400 milliards d'euros d'actifs sous gestion, c'est-à-dire de fonds gérés. Et la moitié de ces actifs, c'est en France. Donc on a évidemment des acteurs qui sont aussi, comment dire, en embuscade, le mot est un peu connoté, mais qui se positionne pour l'ouverture du marché de l'épargne retraite ou le développement du marché de l'épargne retraite. Donc il est certain que Amundi, comme BlackRock, évidemment, a dû faire passer des notes et des éléments de langage au gouvernement dans sa réforme. Et d'ailleurs, la fameuse photo où on voit Emmanuel Macron à côté de Larry Fink, le patron de BlackRock, en fait, quand on regarde un petit peu plus loin, on voit aussi Yves Perrier, qui est le dirigeant d'Amundi.
Elsa, vous avez été la correspondante des Échos aux États-Unis. Quelle est l'image de BlackRock de l'autre côté de l'Atlantique ?
Alors BlackRock, en fait, aux États-Unis, a une image qui est plutôt positive, qui est un peu en train d'évoluer, mais qui est plutôt positive parce que c'est vraiment un des grands acteurs de ce qu'on appelle les ETF. Les ETF, en fait, ça a été une révolution aux États-Unis parce que ce sont des produits qui, en fait, répliquent les indices boursiers. Ce qui fait qu'au lieu d'aller acheter du General Electric ou du Goldman Sachs ou du je sais pas quoi, vous allez acheter un indice. Et donc, en fait, aux États-Unis, ces produits ont révolutionné le marché. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas chers, ils sont faciles, ils sont très faciles à comprendre pour les épargnants. Et en fait, l'introduction de ces produits aux États-Unis a révolutionné le marché. Ils ont capté des milliers de milliards de dollars d'épargne et en fait ont un peu ringardisé les gestionnaires d'actifs traditionnels qui vivaient assez grassement. Pour mémoire, un gestionnaire d'actifs traditionnel, il prend 1 à 5% de l'argent qu'il gère, alors que quelqu'un comme BlackRock ou Vanguard ou State Street, qui sont des fonds comparables à BlackRock, qui font ces fonds indiciels, ils prennent juste quelques points de base. Donc en fait, l'image du grand public, elle est plutôt assez positive du point de vue des épargnants américains. Après, ça pose d'autres questions, parce que ce sont des très gros actionnaires, évidemment, comme ils gèrent énormément d'argent. Vanguard, State Street et BlackRock, en fait, sont à eux trois le premier actionnaire de 90% des entreprises du Standard & Poor's 500, de l'indice S&P 500.
Au final, BlackRock détiendrait une part de marché en France inférieure à 1%, dans un marché de la gestion d'actifs dominé par les filiales des grandes banques françaises. Mais alors, comment et pourquoi BlackRock s'est-il retrouvé au cœur de la polémique sur les retraites ? Et pourquoi BlackRock fait-il peur aux opposants de la réforme ?
Dans ce genre de conflit, on cherche souvent, au niveau politique, au niveau des syndicats, des opposants à une réforme, on cherche des symboles. Et BlackRock coche à peu près toutes les cases.
Étienne Lefebvre est rédacteur en chef aux Échos.
C'est le monde de la finance, c'est un acteur américain. Ça peut très vite symboliser la capitalisation. Et en France, historiquement, les conflits se sont toujours noués entre partisans de la répartition d'un côté et de la capitalisation de l'autre. Et ce débat revient à chaque réforme des retraites entre capitalisation et répartition. Et là, il y a un acteur qui permet de représenter tout ce qui peut faire peur, tout ce qui peut tirer les ficelles dans la coulisse pour mettre en place ce que les Français rejettent parce que c'est le système de protection sociale hérité de 1945, donc démantelé. Par ailleurs, BlackRock, évidemment, est un lobby comme d'autres acteurs du monde de la finance en France. Et a en effet participé à des débats pour obtenir des changements et faire avancer l'épargne retraite en France pendant la loi Pacte de Bruno Le Maire et aussi pendant la préparation de la loi retraite.
Écoutez, c'est tout sauf anecdotique. BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. Finalement, BlackRock, on pourrait se dire, c'est quoi ce truc? C'est 7 000 milliards d'euros de capitalisation, de fonds d'actifs, oui. Et qui sont aujourd'hui, en fait, dans la bataille des retraites, avec un fonds qui cherche à avancer sur la capitalisation.
On vient d'entendre Olivier Faure, premier secrétaire du PS sur France 2 le 2 janvier, qui réagissait à la décoration de Jean-François Cirelli, le patron de BlackRock, par Édouard Philippe. Bon, il avait un peu de mal visiblement avec les chiffres. Le groupe est donc suspecté d'œuvrer en coulisses dans le cadre de la réforme des retraites. C'est un fantasme ou il y a une part de réalité, Étienne ?
C'est du lobbying normal, mais je pense que le poids que peut jouer BlackRock sur les arbitrages de ce texte est assez faible. Il ne faut pas être naïf, évidemment, que BlackRock cherche à rencontrer des politiques en France pour influer sur les décisions des parlementaires lors des débats pour qu'il y ait des produits d'épargne retraite qui soient mieux favorisés fiscalement et socialement, afin de les développer. Donc ça, c'était dans la loi Pacte de Bruno Le Maire. Et pour que, quand il y a une réforme des retraites, on laisse de la place, davantage qu'aujourd'hui, à un espace à la capitalisation. Mais si je veux être un peu cynique, leur lobbying n'a pas été très opérant, parce qu'à l'arrivée, l'espace qui va être libéré pour la capitalisation dans cette réforme est très faible. Donc oui, certainement, ils ont été un acteur, comme beaucoup d'autres, et sans doute, je pense, moins puissant que d'autres acteurs parmi les banques françaises, qui ont plus l'oreille par habitude, qui connaissent plus les réseaux parlementaires. Mais au final, l'espace qui est libéré pour la capitalisation dans cette réforme est très modéré.
C'est d'ailleurs la défense de BlackRock. Ils disent ne pas avoir grand-chose à gagner dans cette réforme. C'est le cas ?
Alors, ils ont à gagner au développement de l'épargne retraite en France. Mais je pense que cette épargne retraite peut davantage se développer si on arrive à orienter l'épargne des Français, l'épargne en général, qui aujourd'hui va massivement vers l'assurance vie, qui finance assez peu les entreprises. C'est un vieux sujet, mais c'est un sujet essentiel. Et ça, donc, c'est l'objet des réformes économiques qui sont menées indépendamment des réformes sur les retraites, pour qu'on développe ces produits d'épargne retraite et qu'on passe de l'assurance vie à davantage de l'épargne retraite et donc une épargne en action. Donc là, le gâteau est immense. C'est des centaines de milliards d'euros potentiellement.
Mais ce sont des arbitrages, hein.
Bien sûr.
Qui peuvent être faits.
Et on voit bien que ça fait des années qu'on essaye d'inciter les Français à aller vers ces placements plus risqués pour préparer leur retraite ou pour épargner en général et qui restent cantonné à l'assurance vie, surtout en obligation, et l'immobilier. Ça reste vraiment les produits d'épargne et on a du mal à changer ça. Le potentiel est beaucoup plus important que sur la réforme des retraites.
Étienne, il y a tout de même une mesure du projet de réforme qui alimente la suspicion, c'est le sort réservé aux salariés à haut revenu qui cotiseront moins. C'est un cadeau pour les riches, dénonce une partie de l'opposition.
Alors en effet, les salariés qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, c'est un seuil élevé, hein. Donc on parle de 200 000 salariés tout au plus. Et ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois vont moins cotiser dans le nouveau système qu'avant pour la retraite. Mais ils vont avoir beaucoup moins de droits à retraite. Alors qu'aujourd'hui, ils ont des très bonnes retraites. Il n'y a pas de système dans le monde de répartition qui assure des retraites publiques à des salaires aussi élevés qu'en France. Donc ce seuil de 10 000 euros reste très élevé. Et donc du côté des cadres, et notamment de la CGC qui est très opposée à la réforme des retraites, on s'insurge que les retraites de ces hauts cadres vont être fortement rognées. Donc c'est un cadeau assez paradoxal. Ensuite, c'est vrai que les entreprises auront moins à cotiser également pour ces salariés-là. Donc, en quelque sorte, là, il y a un cadeau. Mais c'est un cadeau empoisonné parce que les hauts cadres en question, quand ils vont voir le taux de remplacement de leur retraite tomber de 50-60% à 20 ou 30%, ils vont se tourner vers leur employeur et ils vont leur demander « Mais qu'est-ce que vous me proposez comme produit d'épargne retraite maison ou comment vous me soutenez ?» Et ce ne sont pas n'importe quel salarié. Ce sont des salariés que les employeurs vont chercher à garder. Et donc, les employeurs vont avoir à leur proposer des alternatives assez coûteuses.
La réforme prévoit aussi plus de solidarité de la part de ces hauts revenus ?
Oui, ils vont cotiser à hauteur de 2,8%, ce qu'on appelle une cotisation sans droit, c'est-à-dire qu'en face, il n'y a pas de droit à retraite, sachant que cette cotisation, attention, de 2,8%, elle est commune à tous les salariés. Mais au-delà de 10 000 euros, elle subsiste et elle n'a aucun plafond. Alors que dans le système précédent, cette cotisation sans droit qui existait était plafonnée. Là, il n'y a plus aucun plafond. Donc, quelque part, il y aura un peu plus de solidarité dans le système, puisque c'est une cotisation de solidarité qui sert à financer des droits de personnes qui ont des périodes d'interruption de carrière, de chômage, etc. Donc, c'est une contribution sociale pour les retraites. Donc ça, c'est un volet important dans le futur système.
Pour en venir à BlackRock, les opposants disent, bah, regardez, on les pousse vers le système de capitalisation. En gros, pour maintenir leur retraite future, ils vont devoir capitaliser plus, aller plus sur se constituer une épargne complémentaire. Mais c'est même aux revenus, j'ai envie de dire, qu'ils n'ont pas attendu cette réforme pour investir en vue de leur retraite.
Non, et puis encore une fois, il faut voir de quel seuil on parle. 10 000 euros par mois, on est sur en effet des personnes qui n'ont pas attendu pour investir et pour préparer leur retraite en dehors des systèmes publics. Mais c'est vrai que ça pose quand même une question fondamentale. En France, on tient à ce que les hauts revenus aient des droits équivalents aux bas revenus pour la santé. Quelqu'un qui est milliardaire, qui a un cancer, sera pris en charge à 100%. Et on va pas se dire, parce qu'il est riche, qu'il peut se payer ses soins, la sécurité sociale n'a pas à le faire. Et donc, en termes de retraite aussi, on se dit, il faut que ces personnes très riches bénéficient aussi de retraites élevées, alors qu'on pourrait se dire, bon, ben, des retraites de 5 000, 10 000 euros par mois pour des gens qui ont eu des grosses carrières, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais c'est l'idée qu'il ne faut pas que les riches fassent sécession, c'est-à-dire qu'ils sortent du système et qu'ensuite se disent, bah, finalement, à quoi bon financer ce système puisque je n'en bénéficie pas? Donc ça, c'est très fort dans l'imaginaire collectif. Donc toute la question, c'est à partir de quel niveau on fixe ce seuil. Je rappelle que quand ce choix a été fait du seuil des 10 000 euros l'an dernier, personne n'en a parlé. Les seuls qui se sont plaints, ce sont les régimes indépendants, dont on parle beaucoup aujourd'hui, les avocats, les médecins, etc. Parce que eux se sont dit, mais ce seuil est trop élevé, parce que ça va nous obliger à cotiser beaucoup plus qu'aujourd'hui. Puisque dans ces systèmes de régime de retraite indépendant, très souvent, on cotise jusqu'à 5 000 euros ou 3 000 euros ou 7 000 euros de revenus, mais jamais à 10 000 euros avec en plus une contribution de 28 % globale. Donc, ils se sont dit, mais vous allez nous faire contribuer beaucoup plus qu'aujourd'hui dans un système de répartition publique. Et en plus, vous allez tuer nos régimes puisque nos caisses de retraite vont disparaître. Tout ça va être mis dans la grande caisse du régime universel. D'où les mouvements très forts des avocats aujourd'hui qui perdent leur pouvoir sur les retraites et qui vont cotiser plus. Donc, ce 10 000 euros, à l'époque, était considéré comme beaucoup trop élevé et aujourd'hui, il est considéré comme beaucoup trop bas. Donc, c'est peut-être un juste milieu.
BlackRock, c'est la retraite par capitalisation. Ça... On ne veut pas de retraite par capitalisation. La réforme Macron, derrière la réforme Macron, se cachent les fonds de pension tels que BlackRock.
On va le rappeler une dernière fois pour ce monsieur, hein, BlackRock n'est pas un fonds de pension. Mais Étienne, on voit qu'en France, pour une partie de la classe politique et du grand public, le terme de capitalisation, c'est un gros mot. Pourtant, il existe en France déjà des fonds de pension.
Ben oui, bien sûr. Un des plus gros, c'est la Préfonds. C'est un régime de capitalisation pour les fonctionnaires facultatifs. Hein, ce n'est pas obligatoire, mais qui brasse des fonds importants et qui continuera de le faire, hein, dans le système du régime universel. Il n'est pas question de le remettre en cause. Donc, il y a une certaine hypocrisie d'ailleurs des syndicats qui participent à la gestion de cette Préfonds depuis des années et qui ne veulent surtout pas qu'on revienne en arrière dessus parce que c'est un système assez performant et qui pousse des hauts cris dès qu'on veut développer la capitalisation. Toujours concernant le secteur public, il y a le régime additionnel de la fonction publique qui avait été créé, puisque vous savez, les fonctionnaires gagnent beaucoup de primes sur lesquelles il n'y a pas de droit à retraite. Et pour améliorer leur retraite, on avait considéré qu'on pouvait créer une cotisation sur ces primes-là et qui alimente ce régime, qui est un régime complémentaire et donc par capitalisation, au-delà du régime de base des fonctionnaires. Ce régime-là, lui, en revanche, a vocation à disparaître dans le régime universel. Donc, il y a un pan de la capitalisation qui va être rogné de ce côté-là, alors qu'il y a une partie qui va être ouverte sur les salariés du privé au-delà de 10 000 euros, en effet. Mais c'est vrai que ce côté gros mot de la capitalisation est quand même surprenant, puisque on est de toute façon à 90-95% sur de la répartition en France et on va le rester. Et évidemment qu'on a besoin de capitalisation pour l'économie par ailleurs. On voit bien que pour nos entreprises, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, on manque de ces fonds de pension internationaux qu'on vient dénoncer ensuite parce que on n'a pas d'acteurs français suffisamment puissants pour le faire et financer les entreprises françaises ou européennes. Donc, c'est quand même très paradoxal, alors que objectivement, il pourrait y avoir de manière consensuelle un socle très important pour la répartition. Il n'y a pas de souci là-dessus, on le conservera. Et avoir des produits de capitalisation qui soient plus importants et l'économie y gagnerait. Mais c'est une question politique hypersensible et on n'en sort pas vraiment.
Merci Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos. Merci Elsa Conessa, rédactrice en chef Marché Finance. Et merci Bastien Bouchaud que vous retrouvez tous les mardis dans les pages des Échos. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver La Story sur les plateformes de podcast et de téléchargement, notamment nos émissions sur la réforme des retraites. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.